Cette semaine, la communauté urbaine d'Arras coordonnait pour la première fois une série d'événements dans le cadre d'une semaine nationale de l'intégration des réfugiés. Une semaine pour favoriser les échanges entre les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié en France et la société d'accueil. Alors, le but, c'était aussi de faire du lien entre les différentes associations locales qui œuvrent à l'insertion des réfugiés. Alors, c'était le cas notamment lundi dernier lors de ce forum organisé Salle Vauban de la citadelle d'Arras. On a pu y rencontrer tout un tas d'assos. On commence par écouter Chantal Duchâteau, responsable de l'asso Agir ABCD 62.
C'est une association qui a 43 ans, qui vient en aide à toute personne fragilisée, qu'elle soit française ou étrangère, qu'elle soit jeune ou âgée. Tout le monde peut avoir le droit aux aides qu'on peut leur apporter, qu'elles soient sur l'apprentissage de la langue, sur les visites de convivialité, sur l'électronisme, sur la parentalité. On n'a aucun sujet tabou, tout est utilisé.
Comment ça se passe un petit peu l'accueil et puis les différentes aides que vous apportez ?
Alors l'accueil, chacun appelle au niveau de l'association. On met en relation un bénévole et un bénéficiaire, et puis on voit ce qu'ils ont besoin. Si c'est de l'apprentissage de la langue, du français, langue étrangère, on va se mettre à leur portée, qu'ils soient primo-arrivants ou au contraire déjà avec un niveau assez élaboré. Et puis ensuite, on fait des visites de convivialité aux personnes seules et isolées, donc c'est un autre groupe. On fait un groupe d'aide administrative, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin de remplir des dossiers et qui sont limitées par la langue, par la compréhension, on les aide. On a aussi des actions ponctuelles sur les arnaques, sur l'éducation budgétaire, sur les accidents domestiques. Donc on va également aussi dans les centres pénitentiaires quand c'est nécessaire. On fait de l'aide à la parentalité, rétablir le lien entre parents, enfants et école. Et puis tout ce qui est mobilité pour les personnes âgées, les seniors. Voilà, en gros. Mais je n'ai peut-être oublié d'ailleurs. Tout est gratuit chez nous. Hein. Donc nous ne vivons qu'avec les subventions. Hein. Et le siège est à Paris, donc on est une ONG reconnue d'utilité publique. Voilà.
Ça marche avec des bénévoles. J'imagine que vous avez aussi besoin de gens pour vous aider. Comment ça se passe ?
Eh oui, j'ai besoin de bénévoles. La porte est grande ouverte. Des bénévoles, on en a besoin. Je prends des bénévoles de tous âges, qu'ils soient retraités, jeunes. Tout le monde peut venir et tout le monde trouve une place chez nous. Et on vit dans la convivialité.
Qu'est-ce que ça apporte aux bénéficiaires et puis aussi aux bénévoles qui apportent leur aide ?
Alors les bénéficiaires, eh bien écoutez, on est là, on essaye de s'adapter à leur niveau, que ce soit niveau de français ou niveau les besoins qu'ils ont. S'ils sont isolés tout seuls, on leur amène la lecture, on leur fait un petit repas, enfin voilà. Et puis pour le bénévole, il a l'impression de servir à quelque chose. Et en plus, nous avons créé depuis 6 mois un groupe vocal chantant qui va se produire le 8 octobre à la salle de la Maison des Sociétés, où nous accueillons à la fois des bénéficiaires, des bénévoles, mais aussi un groupe de jeunes qui appartiennent à DONUP, c'est-à-dire l'association qui s'occupe de jeunes trisomie 21. Voilà, donc on associe tout le monde et je tiens au groupe vocal parce qu'on n'est pas dans la perfection, loin de là, mais par contre on est dans l'intégration la plus totale. Et la bonne humeur.
Chantal Duchâteau de l'asso Agir ABCD 62, dont le siège est à la Maison des Sociétés à Arras. Alors, autre asso présente lors de ce forum de la semaine de l'intégration des réfugiés à Arras, et c'est presque un homonyme, Agir en Artois, Agir pour accueillir, guider, intégrer les réfugiés en Artois. Une asso qui intervient depuis 2018 dans l'Arageois et qui accompagne des personnes au niveau de l'apprentissage du français. On écoute Christine.
On n'est pas les seuls qui donnons des cours de français en tête à tête, mais on est les seuls qui emmenons les apprenants à l'examen. Un examen coûte entre 160 et 220 euros. C'est un examen officiel qui se passe à Lille et nous prenons en charge le coût de l'examen de façon à ce qu'ils puissent avoir un certificat qui montre justement leur apprentissage du français.
Pourquoi c'est important pour les personnes réfugiées ou les personnes migrantes, les personnes en exil, de passer cet examen ? En quoi c'est déterminant ?
Alors, c'est déterminant déjà pour la recherche du travail et quand ils font leurs papiers auprès de l'État, donc l'OFI, l'OFPRA, ça montre leur intégration. C'est une obligation de parler la langue du pays. En France, c'est obligatoire.
Alors cet examen, il est très difficile. Certaines personnes nées en France qui ont été à l'école auraient du mal à le passer, c'est ça ?
Alors, il y a différents niveaux d'examen, c'est comme le collège, le lycée. Donc les examens commencent le plus facile par le A1 et ça continue jusqu'au C2. Le A1 et le A2 sont, pour certains, relativement faciles à avoir, bien que tout dépend de où la personne part. On a par exemple une personne qu'on accompagne qui vient du Nigeria, qui... Un stylo, pour elle, c'était uniquement pour faire une croix. Et actuellement, maintenant, elle est capable de faire une dictée. Elle devient de plus en plus autonome. Après, on passe au B1 et au B2, qui, là, sont des examens beaucoup plus difficiles. Et donc, en effet, le B2, actuellement, avec d'autres associations, il y a eu un test fait passer auprès de 10 personnes françaises pour le B2, en conditions totalement identiques que le jour d'un examen. Et si je vous demande combien de personnes ont eu l'examen, vous me répondez combien sur 10 ?
8.
2.
Ah.
2 personnes qui sont des anciennes universitaires, sachant que les 10 personnes sont françaises d'origine, ont fait des études, ont travaillé, il y avait tous les créneaux d'âge, du retraité à l'étudiant. Et donc, 2 personnes ont eu le B2. Et c'est l'examen que l'on demande aux personnes en situation régulière qui veulent avoir, qui veulent pouvoir demander l'asile. On leur demande de passer un examen que nous, Français, nous ne sommes pas en capacité de passer.
Conclusion, il y a une sélection, c'est ça ?
Eh bien, vous le dites. Vous le dites, oui. Oui, on peut le voir comme ça. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est que ce soit juste, que cet examen soit juste et qu'il soit à la hauteur réellement de ce que nous, Français, pouvons faire. Les jeunes, il y a un prof qui nous disait, en lycée, ils n'ont pas ce niveau-là.
Comment les personnes vous sont adressées ou comment les personnes rencontrent en fait votre association ? Est-ce qu'elles sont dirigées vers votre association par les services sociaux arrageois ?
Non, en règle générale, on a redémarré avec les familles ukrainiennes parce qu'il y avait des fortes demandes et on avait été contacté par une association comme Audace, avec qui on a vraiment du lien et c'est très intéressant. Sinon, après, les personnes entre elles en parlent. Et quand elles sont réellement demandeurs, elles viennent nous trouver. Et on n'a pas que des Ukrainiens. On a des personnes qui viennent d'Arménie, qui viennent de Roumanie. Naomi qui vient du Nigeria. On a Vi qui venait du Vietnam. On a des personnes qui viennent de différents horizons. Et ils se rencontrent sur des lieux où, comme la FP2I ou comme pour certains à la faculté. Et quand ils connaissent notre association, bien en fait, ils nous interpellent en nous disant « moi aussi, je voudrais prendre des cours ». Et dans la mesure où on peut les accueillir, parce que le nerf de la guerre, ce sont les bénévoles. Et trouver des bénévoles, toutes les associations, je pense, vous diront la même chose. Trouver des bénévoles, maintenant, c'est vraiment très difficile. Et on ne peut pas accueillir autant de personnes qu'on voudrait dans la mesure où on donne au minimum 3 fois 1h30 par semaine de cours pour que ça soit réellement quelque chose de suivi et que la personne se sente vraiment épaulée. Donc, il faut des bénévoles en face. Et tous les bénévoles n'ont pas la possibilité de donner 3 cours. Il y a des bénévoles qui donnent 1h30 de cours, d'autres 2 fois 1h30, d'autres 3 fois. On a un bénévole qui vient de Liévin, par exemple. Là, c'est très bien parce qu'on a un jeune de 17 ans, lycéen, qui vient rejoindre l'association, qui va donner un cours de soutien à un jeune qui en a vraiment besoin, qui est rentré en 5e. Donc, dans les bénévoles, on a vraiment tous les créneaux d'âge. Et surtout, ce ne sont pas que des anciens enseignants, puisque quand on a des apprenants, on a des apprenants de tous les niveaux. On a des primos arrivants ou on a des gens qui étaient professeurs dans leur pays ou médecins dans leur pays. Et pour eux, c'est beaucoup plus facile l'apprentissage. Donc là, il nous faut à chaque fois des bénévoles qui sont en face d'un apprenant. Il faut beaucoup de bénévoles pour pouvoir donner des cours de français.
Christine de l'asso Agir en Artois. Et puisqu'on parle de bénévoles qui donnent des cours de français, on écoute maintenant le témoignage d'une de ces bénévoles pour l'association La Voix des Réfugiés.
Je m'appelle Françoise Lobdé, je suis une prof de lycée retraitée, prof de français.
si on est usager de la médiathèque Saint-Va à Arras, on vous connaît forcément parce que vous êtes souvent là à justement à dispenser des cours pour des personnes étrangères qui veulent apprendre le français. Comment c'est venu d'abord dans votre parcours cette activité ?
En 2016, comme retraitée, j'ai décidé de faire quelque chose dans le bénévolat. Et comme j'étais prof de français, j'avais travaillé en Afrique aussi, dans des lycées en coopération. Donc je me suis dit, je vais apprendre le français aux étrangers. Et ma fille m'a trouvé le CADA, où on a bien voulu me prendre pour faire des cours de français la première année où j'étais bénévole. Donc ça m'a tout de suite plu, le contact au-delà de la barrière de la langue, comme on dit, en utilisant aussi l'anglais, si on peut, l'italien, si on peut, parce qu'il y en a qui ont passé par l'Italie et qui ont dû y travailler. Donc j'ai réussi à me débrouiller, puis très vite, je me suis attachée à certains demandeurs d'asile. Et j'ai vu que c'était vraiment motivant d'essayer de les sortir d'affaires. Parce que pour s'insérer ici, il faut la langue française, c'est essentiel. Il faut s'adapter, les prendre où ils sont et développer l'accès, la marche vers le français en connaissant bien les difficultés de chacun selon son origine linguistique et selon aussi son bagage d'études. Après, je me suis vraiment passionnée pour même réussir à faire lire et écrire des gens qui, dans leur pays, comme un jeune Afghan qui était dans une famille d'accueil d'une amie, dans la famille de cette amie, il avait appris à parler dans cette famille puisqu'il vivait avec eux, mais il me disait, on a beau jouer à des petits jeux de société, il décolle pas pour l'écrit, il n'y a rien à faire. Donc je lui ai dit, je vais te faire lire. Là, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus de patience, mais c'est la même méthode. Je prends le même livre de CP, Daniel et Valérie, un livre de CP qui a fait ses preuves dans les années 50, et qui est maintenant peut-être jugé un peu démodé. Ça se passe, une famille dans une petite ferme, et qui va au village faire les courses et tout ça. Mais ils aiment bien. Alors après, j'ai eu des Ukrainiens, et même des vieux médecins ukrainiens. J'ai dit, vous avez 6 ans, vous êtes dans une petite ferme avec Daniel et Valérie. Ils ont dit, on y va, c'est très charmant. Et on a essayé de le faire comme ça. Je peux dire qu'il y a des gens qui sont doués pour étudier, pour les langues, qui sont motivés. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus ici faire un stage linguistique. Ils sont venus ici, mais ils disent qu'ils veulent ici une vie paisible. Pas ambitieuse, ils sont quelques-uns à dire, bon, moi j'avais des diplômes dans mon pays, ou moi j'ai toujours rêvé d'être chef d'entreprise. Mais ils veulent d'abord une vie paisible, parce que nous, on fait cours à des gens qui ont été extrêmement traumatisés, par définition, sinon ils ne seraient pas réfugiés. C'est-à-dire des gens qui ont subi des épreuves dont ils n'osent même pas parler. Moi, j'ai décidé de m'adapter, de prendre les gens où ils étaient, où ils en étaient, et de les faire évoluer par rapport à ce qu'ils étaient. Et que ce soit toujours extrêmement bienveillant, extrêmement rassurant. Et comme disent les neurosciences, la première chose, c'est de dire « ça va aller ». Tu vas y arriver, c'est bien. T'as lu 2 mots, c'est déjà très bien. Bravo, tu avances. Et c'est pas de la flatterie. C'est vraiment, pour certaines personnes, c'est comme votre première leçon de permis de conduire. Quand vous avez tout à faire en même temps, le vélo, le volant, les pédales, le bruit du moteur, le clignotant, le rétroviseur, c'est très compliqué. Donc pour eux aussi, c'est très compliqué de commencer.
Françoise Lobedet, bénévole pour l'asso La Voix des Réfugiés. Dernier témoignage recueilli lors de ce forum de la semaine d'intégration des réfugiés à Arras, c'est celui de Zakia Boutifla, travailleuse sociale pour une asso récemment implantée dans l'Arrajois du côté d'Achicourt, une asso qui s'appelle Coalia. Coalia accompagne les réfugiés vers l'emploi et le logement dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Agir. Décidément. On lui a demandé à quelles difficultés étaient confrontés, selon elle, les réfugiés dans leur parcours d'intégration en France et dans le Pas-de-Calais en particulier.
Ça peut être différent en fonction du secteur dans lequel ils sont. Par exemple, si on a des personnes sur le secteur de la CUA, si on a des personnes sur le secteur de Saint-Omer et un autre profil de public aussi sur le secteur de Calais. Voilà, on sent qu'il y a un frein à l'ouverture des droits au niveau des institutions, plus de marginalisation, plus de problématiques de santé mentale, plus de problématiques sur la mobilité aussi. Donc, c'est à nous de voir aussi comment on peut venir s'ajuster, s'adapter pour aller au contact de ces personnes-là qui sont en demande d'accompagnement et essayer vraiment de s'ajuster et d'être au plus près de ces publics, quitte à se déplacer aussi directement sur ces secteurs-là, même si on n'a pas les lieux de permanence. Et généralement, la première demande et le premier besoin, c'est le volet logement. Parce qu'on a aussi des publics qui contractualisent et effectivement, on apprend qu'il y a une fin de prise en charge et une sortie du dispositif d'accueil. Là, effectivement, on est sur une urgence à essayer de remédier, de mobiliser les partenaires avec lesquels on travaille.
Peut-être une dernière question en lien avec ce que vous venez de dire. Comment vous voyez un petit peu la dynamique d'intégration, de politique d'intégration des réfugiés dans l'Arrajois? Il y a cette semaine qui est quand même un signe fort. Il y a vous qui arrivez dans l'Arrajois depuis peu. Comment vous jugez ça? Comment vous voyez ça un peu?
Bah moi, ce que je trouve intéressant sur cette semaine-là d'intégration, c'est nous aussi, comme vous l'avez expliqué, on est arrivé nouvellement aussi sur le territoire. Donc, on a des actions qu'on a menées sur la semaine, les journées, sur la journée mondiale des réfugiés. On a fait aussi un temps fort et une ouverture aussi de nos structures pour communiquer auprès des partenaires et au sens plus large de notre arrivée, notre fonctionnement auprès des publics, et aussi de pouvoir échanger sur le comment on peut travailler ensemble par rapport au public qu'on peut accompagner. Bah moi, je sens qu'il y a une bonne dynamique partenariale qui s'agrandit et qui s'élargit au fur et à mesure. On sent qu'il y a des envies mutuelles de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir voir comment chacun peut fonctionner pour essayer d'être dans une démarche cohérente et de ne pas travailler en doublant sur ce qui peut être fait dans les structures qui nous font les liens des publics qu'on accompagne. En tout cas, ce qui est important, c'est que le lien, il est fait. Il y a un point qui est fait régulièrement dès qu'il y a une personne qu'on accompagne, à savoir voilà, le travail qui a été fait, comment on peut travailler ensemble sur les situations, comment on peut se faire le partage sur les axes d'accompagnement éducatif. Mais dans tous les cas, le travail, on ne peut pas se retrouver seul, voilà, dispositif à agir, à accompagner la personne. En tout cas, pour nous, la place du partenariat, elle est vraiment primordiale. Donc, on va à la recherche de cette connexion. On a notre collègue Marion qui fait aussi cette prospection au plus large pour identifier, pour faire la connexion, communiquer et établir aussi des conventions de partenariat. Donc, voilà, ça nous permet de mieux repérer, pour nous, mieux orienter aussi les publics en fonction de leurs besoins. Et voilà, je pense que là, c'est un travail qui est mené pleinement et qui va se poursuivre et qui va se renforcer aussi dans le temps. Donc, c'est important pour nous, effectivement, d'être sur ce temps fort-là qui est organisé pour être dans la continuité de ce travail partenarial pour mieux accompagner les publics qu'on accompagne. Donc là, moi, je peux comprendre là aujourd'hui par rapport aux partenaires-là qui sont présents, qu'on touche aussi des fois les mêmes publics. Et la connexion, elle se fait et on se dit comment peut-être on peut travailler en amont ou être complémentaire sur le temps d'accompagnement sur notre dispositif.
Zakia Boutifla de l'asso Coalia, implantée depuis début 2025 à Hachicourt. Propos recueillis lundi dernier, salle Vauban de la Citadelle. C'était à l'occasion de ce forum organisé par la communauté urbaine d'Arras. La semaine de l'intégration des réfugiés se poursuit. Alors aujourd'hui, avec justement les portes ouvertes de Coalia. Donc c'est de 10h à 16h au 34 rue Roger Salingros à Hachicourt. Et demain, samedi 11 octobre, en clôture avec cette conférence dansée, c'est de la danse orientale. Ça se passe salle Vauban à la Citadelle d'Arras de 14h à 16h. Et puis je n'oublie pas non plus les émissions réalisées par PFM dans ce cadre, le Camarade Voice avec des personnes réfugiées. C'est à retrouver aujourd'hui de 11h à midi et sur radiopfm.com.